Radio G 101.5 FM.
C'était vraiment très intéressant. C'était vraiment très intéressant.
Bonsoir et bienvenue dans Mon Tiroir, l'émission qui a des choses à vous dire. Par contre, sont-elles toutes intéressantes? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ce soir avec cette émission interactive où vous pouvez donner votre avis de chez vous en temps réel. Pendant les chroniques, vous allez pouvoir en effet anonymement et depuis votre smartphone ou ordinateur dire si les sujets vous intéressent ou pas grâce à l'application de l'émission sur laquelle figure un gros bouton stop. Si les chroniqueurs ont réussi à vous captiver et s'ils finissent leur texte, alors ils auront droit à ce message.
C'était vraiment très intéressant.
Mais s'ils sont trop longs ou pas intéressants, vous pouvez à tout moment cliquer sur stop et dans le studio on entendra ce jingle. Il faudra alors changer de sujet pour continuer à être intéressant. Donc si vous nous écoutez en direct ce mardi 8 août de 19h à 20h, eh bien rendez-vous dès maintenant sur le site radio-g.fr depuis un ordinateur ou un smartphone, puis cliquez sur le lien qui vous invite à voter. Alors autour de la table, je vous invite à vous connecter. Est-ce que vous êtes tous connectés aussi? Parce que vous pouvez voter aussi.
C'est bon, oui. On est prêts à se désinguer les uns les autres.
C'est ça. Bonsoir à vous donc, troisième émission en direct. Bonsoir Robin.
Bonsoir.
Bonsoir Caroline.
Bonsoir.
Bonsoir Florian.
Bonsoir.
Bonsoir Sandra.
Bonsoir.
Bonsoir, oui, avec le micro.
Bonsoir.
Et bonsoir Joe.
Bonsoir.
Voilà, qui réalise aussi cette émission. Puis on a un invité aussi, ton prénom c'est Martin. Bien, on a Martin qui est ici dans le public. Donc tout est prêt, on va ouvrir nos tiroirs et les votes sur la page radio-g.fr. Bienvenue dans Mon Tiroir. Avant de connaître les sujets retrouvés dans vos tiroirs, on va aborder quelques brèves angevines, à voir si ça vous intéresse ou pas. On rappelle que si vous nous écoutez en direct, vous pouvez aussi donner votre avis en votant de chez vous sur radio-g.fr. Alors, première chose, est-ce que vous voulez acheter une maison? Est-ce que ça vous intéresse d'acheter une petite maison? Parce que j'ai, entre le château du roi René et la cathédrale Saint-Maurice, se trouve la plus vieille maison à pans de bois d'Angers. Et cette bâtisse du XIVe siècle est en vente.
Alors,
550 000 euros.
Je suis pas sûr que le banquier soit d'accord.
Non, c'est pas la maison d'Adam, c'est une autre maison. Il s'agit d'une maison de 4 pièces pour une surface totale de 131 mètres carrés qui s'étale sur 3 étages. Elle appartenait.
Par Stéphane Plaza, là.
Ouais, c'est ça, ouais. Elle appartenait à Axel Brunet, un grand collectionneur d'art de la haute époque et il est décédé l'été 2022.
Et 500 000 euros, c'est une bagatelle, voyons.
Bien sûr. Donc, il avait acheté la maison en 1971 afin de la restaurer entièrement à l'identique.
Voilà. Il l'a fait.
Il l'a restauré, tout à fait. Sur la façade, on retrouve un panneautage à grande croix de Saint-André. Dans le logement, c'est un torchis enduit de lait de chaud qui sert d'isolation thermique et phonique. Voilà. Donc, d'après.
Une croix Saint-André, du coup.
D'après. Non, alors,
pas oui, c'est ça. Non. Non. Si, tu connais vachement bien, dis-moi.
Non, bah, oui, ça m'interpelle,
elle a travaillé pour le point G. D'après la datation, réalisée à partir des analyses de bois de chêne, la maison aurait été construite en 1399. Voilà. Par contre, si vous souhaitez en faire une résidence principale, il va falloir réaliser quelques petits aménagements.
Je vais te demander, parce que 1971, quand il a décidé de la reprendre, est-ce qu'il a mis le double vitrage direct ou pas?
Alors, je sais pas s'il y a vraiment du double vitrage. En tout cas, il faut tenir compte de l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Voilà. Donc, dès que vous déplacez un meuble, vous en avez pour une blinde, de toute façon. Donc, pour l'instant, deux visites de la propriété ont déjà eu lieu. Plusieurs acheteurs étrangers vont bientôt se manifester. Donc, le monument présente aussi d'autres atouts comme des vitraux, un sol en terre cuite, des combles remaniés avec du bois provenant de navires de Loire et des vestiges romains cachés dans les caves. Donc,
elle est visible de l'extérieur.
Oui, elle est connue. Hein,
tout à fait.
Parce qu'elle est très particulière. Je crois qu'elle a une toute petite porte où elle a quelque chose. Elle est particulière de façon.
Alors, je ne l'ai pas vue, mais j'imagine.
Ce qu'il veut, c'est s'il achète une maison, il veut qu'elle soit claquante. Il veut qu'on la voit.
D'accord. Bon. Ok, bah écoute, j'ai été jusqu'au bout, donc j'ai un quoi là?
C'était vraiment très intéressant.
C'est ça, merci, très bien. Deuxième, allez, j'ai failli quand même, on est descendu d'un cran. On reset, je vous rappelle que vous pouvez toujours voter sur radio-g.fr si vraiment mes chroniques vous gonflent. Justement, en parlant de gonflant, les montgolfiades du château de Brissac, ouais, je sais, c'est le mois d'août. les montgolfiades du château de Brissac se déroulent du 17 au 19 août, vous savez ce que c'est?
Oui.
Oui, donc 3 jours pour fêter les 20 ans de l'association. Voilà.
On va les couilles.
Ben c'était bien.
Si c'est montgolfière ou brissac.
Moi j'avais mis cool.
Ben t'avais mis
moi,
cool.
Moi ça m'intéresse.
Ben ouais, je sais, ben voilà. Ben non, ça ne vous intéresse pas d'avoir de parler des
Il y en a tout le temps des montgolfières.
D'accord, bon, ok, très bien. Bon, bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. De toute façon, il n'y a pas grand-chose au mois d'août. Il est maintenant d'ouvrir vos tiroirs. Allez, on commence avec Robin. Robin, de quoi nous parles-tu ce soir? Attention, tu as une épaule de Damoclès au-dessus de toi.
De Damoclès?
Damoclès.
Eh bien, moi, aujourd'hui, dans mon tiroir, j'ai trouvé un... Enfin, aujourd'hui, j'ai évidemment pas écrit la chronique. Aujourd'hui, voyons, je me suis pris à l'avance.
Bien sûr, il y a 2 heures.
J'ai trouvé le carnet de santé de mon chien. Et ça m'a... Oui, non, attendez.
Ok, ça commence bien.
Attendez, laissez-moi une chance. Ouais, ça m'a rappelé quand j'étais petit, j'avais des poissons et j'avais des amis qui avaient des lézards, des lapins. Et ben ces animaux qui font bloup bloup, cote cote ou x ou encore croc croc.
D'accord. Le poisson il fait
bloup bloup.
Ah d'accord.
Et oui, comme le dessin animé Bloops.
D'accord.
Et bien ce sont pas les animaux de la ferme de Tonton Jackie, mais plutôt les nouveaux animaux de compagnie. Déjà, est-ce que vous avez déjà entendu ce terme?
Les nouveaux animaux.
Ouais.
Nac,
oui, exactement.
Ah.
Ouais, oui.
Ouais. Et est-ce que vous arriveriez à donner une petite définition globale de qu'est-ce que c'est qu'un nac?
Bah, c'est tout sauf un chien et un chat. Je pense, ouais, c'est ça, ouais.
Tout ce qui vient d'Australie, t'es sûr que c'est un nac.
Oui,
déjà.
Mais
c'est quoi, Bruno, enfin. Bruno, on a pas tous des koalas quand même.
Bruno avait raison, c'est tout ce qui n'est pas chien et chat globalement.
Ouais.
Donc j'espère ne pas dire de bêtises puisque j'ai pas fait relire mon texte à ma vétérinaire préférée que je salue d'ailleurs, mais l'expression du coup nouveaux animaux de compagnie est créée en 84. Oula, c'était
hein. Mais non.
Bah si.
Ah c'est le jeu ma pauvre Lucette.
Ouais. Oh bah c'est dommage. Et, parce qu'en fait tu voulais nous dire quoi exactement?
C'est dommage, moi j'adore les animaux de compagnie.
Sur les nacs,
ah,
tu voulais
ouais,
dire
c'est
quoi
dur.
Ben globalement qu'il faut faire attention à comment est-ce qu'on les achète, que même si un
c'est
rat
pas un jouet quoi.
Ouais, même si un rat ça coûte 5 euros, avoir le vivarium etc, ça ouais. coûte beaucoup plus cher et surtout ouais. que c'est un petit peu dangereux pour l'environnement puisqu'on retrouve des perruches d'Amazonie à Londres. Parce que les gens libèrent les animaux, ils se demandent oh c'est chiant, j'ai
ah ouais.
Puis voilà. Il y avait la mode des tortues.
Et c'est pareil, oui.
On les achète toutes petites.
Et en fait ça grossit énormément
ouais.
et
après les gens les jetaient. Moi j'avais été obligée de laisser aux zoos de la flèche parce que du coup elle mangeait de la viande. Et ah ouais. elle devenait énorme. À ah bah l'époque, oui. dans les jardineries, ils regardaient pas trop ce qu'ils demandaient.
Moi aussi, j'en ai eu des petites tortues.
Ouais.
Pareil, vous les ardonnez aussi.
Okay.
Ah ouais,
bon, on n'en saura pas plus.
Moi, j'ai une anecdote là-dessus, juste. C'est que je me suis rappelé que j'avais des tortues quand j'étais petit. Et j'en parle à ma compagne et elle me dit, mais elles sont devenues quoi? Je dis, elles sont mortes avec le temps. Mais tu sais que les tortues, ça
peut vivre 50 ans.
Bah non, mais pas celle-là. Ça, c'est des.
Ouais.
Et en fait, elle m'a mis le doute. Et finalement, j'ai appelé mes parents suite à ça. Je leur dis, mais les tortues,
elles sont dans le jardin.
Et elles m'ont dit, bah en fait, c'est juste qu'on s'en occupait mal et un jour on les a retrouvées desséchées quoi. Et j'étais en mode, mais non, mais l'horreur quoi. En fait,
ah là,
donc
ouais.
je me suis
oh
dit,
ça
moi, j'étais en mode, bah, elles sont mortes de vieillesse quoi, les pauvres.
Il y a un droit entre guillemets international justement du bien-être animal hein, là-dessus.
C'est, oui, c'est vrai. À l'époque, enfin.
Oui, non, mais même
pour
encore.
Pour donner une idée, le nom d'une des tortues c'était Jennifer. Donc on est dans les années 2000, mon frère l'avait appelé comme ça parce que c'était Starac. Donc
ah oui, bah c'est
voilà.
Starac.
À cette époque-là, on s'en foutait du bien-être animal. Hein.
Mais de la chronique aussi. Donc on passe à Caro.
Wow.
Oh.
Ok.
Alors Caro, on
c'est
a reseté. Donc
c'est,
voilà.
Je précise que c'est ma première quand même.
C'est ta première, donc soyez indulgent.
Et que en fait, je me suis laissé j'ai envie de faire une immersion totale, c'est pour ça que j'ai quasi pas préparé.
Voilà, bon ben
donc un petit peu d'indulgence.
Oui, alors de dire ça au début, c'est un peu dangereux au
non,
début. Hein,
c'est pas grave.
Ça va se voir.
Oui, mais comme ça, je peux avoir la tendresse du public.
De quoi vas-tu nous parler?
Je vais vous parler d'un sac. Et oui.
Alors,
pour changer.
Ouais.
Donne-nous
des
ceux qui me suivent depuis.
Un sac en plastique.
Un vrai sac, un gros sac à main. Toi, tu sais, Sandra, dis-moi.
C'est lequel?
Le sac de Jade Birkin.
Oui, c'est ça.
Ah oui.
Mais oui, oh là là, bah faites pas cette tête, les gars.
Si, c'est bien.
Bah justement, alors elle nous a quittés, mais justement, elle laisse derrière elle un sac emblématique. Et ouais. je pense qu'il va prendre de la valeur dans les mois qui vont suivre. Donc, c'est le moment de se jeter dessus, hein, parce qu'il vaut déjà très très cher. Il est à peu près dans les 20 à 30 000. Il est bien sur commande.
Ah bah, 30 000 boules, un sac.
Non, mais oui, mais il y a une histoire aussi.
Ah bah, c'est pas un petit sac à main, déjà.
Ah non, mais c'est une tente cachoua, c'est quoi là?
Bah non, mais alors, il est emblématique pour plein de
c'est
choses.
C'est ça, il y a de l'argent dedans.
Bah, et déjà, il est en cuir, en veau grainé et d'une matière assez rare et assez noble, pour le coup. Donc la matière fait tout. L'artisanat français, quand même, Bruno, derrière.
Mais quel
un sac
rapport
Hermès,
avec Jane Birkin?
Ah bah, elle lui a donné son nom parce qu'il y a une petite histoire derrière.
Oui, j'imagine.
Et alors l'histoire, c'est quoi? C'est qu'en fait, Jane Birkin, bah, elle était jeune maman. Vous savez qu'elle a eu Charlotte avec Serge Gainsbourg.
Mm-hmm.
C'était un couple quand même mythique des années 70. Et ils ont eu, elle avait Cadbury avant et elle a eu Loudoyon par la suite. Et donc un jour, elle était dans un avion et elle s'est plaint que dans son sac fourre-tout, elle pouvait rien mettre. Quand on est maman,
vous savez.
Dedans.
c'est difficile.
Les trois enfants peut-être pas, mais au moins les jouets, les biberons, etc. Et elle s'est plaint à un homme qui était à côté d'elle et il lui a dit, bah écoutez, je vais vous dessiner un sac. Elle lui dit, mais vous êtes qui? Et il fait, mais je suis Hermès. Et c'était tout simplement et tout ça.
Elle s'est chopé un Hermès dans l'avion, dis donc.
Ben non, quand même. Mais il lui a dit, je vais faire un sac, je vais faire un grand fourre-tout pour vous, d'accord. Et je vais lui donner votre nom si vous êtes d'accord. Évidemment, elle a pas dit non.
Ouais.
Et depuis, eh bien, Hermès a créé le Birkin, qui est un des sacs emblématiques de la maison Hermès depuis 1984.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Et donc, il est hyper grand, il est hyper large, et il est hyper pratique. Elle l'a validé, oui.
Bah après, il y a eu un sac à son nom, donc franchement.
Bon, après, elle n'a pas trop chipoté.
Ouais, dire c'est moche, tout ça, non. C'est
surtout que je pense que l'histoire est sympa, mais il y a eu une vraie collaboration derrière avec un petit peu d'argent, je pense.
D'accord, je pense, pour donner le nom,
je pense qu'ils ont dû lui acheter quelques droits là-dessus.
Voilà, exactement. Et alors.
Le sac carreau, ça serait quoi alors?
Bah, il existe, le sac carreau chez Louis Vuitton.
Ah, d'accord.
Ouais.
T'as déjà ton
il
sac.
Il est pas terrible, mais bon, d'accord. Dommage, mais il existe déjà. Mais pour le coup, c'est quand même l'artisanat français, c'est travailler des matières nobles, c'est quand même un savoir-faire ancestral, Hermès. D'accord. Et donc, on regarde pas le prix.
Bah, non, j'imagine. Bah, il y a le sac Robin, mais c'est chez Lidl. c'est pas pareil.
Oh, d'accord, on peut pas l'avoir jusqu'à mentir, hein, il se fait couper
un sac
à
Robin, hein. Un sac Florian, un sac Sandra. Non, ça me dit rien. Désolé.
Non. Pas encore. En tout cas, bah, bravo, puisque tu as réussi à faire ta chronique entièrement. Wouh. Allez. Voilà, tu as un set intéressant, un beau jingle ici. Allez, encore une. Continue avec Joe.
Je suis flippé, hein.
Bonsoir.
Bonsoir. Eh
ben, déjà, je veux juste dire qu'on a Olivier qui est sur le chat.
Ah, d'accord. Ah.
Bonsoir, Olivier. Bonsoir à tout le monde.
C'est Olivier, notre chroniqueur.
Bah,
j'imagine. S'il nous écrit d'Italie, c'est lui. Donc, on l'embrasse.
Il écrit quoi?
D'Italie. Il est en Italie, là.
D'Italie, d'accord. D'accord.
Ouais.
Moi, je vais vous parler aujourd'hui d'un objet que j'ai retrouvé dans mon tiroir. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est une manette de ma première console, donc, à savoir la PS2.
Oui, ah,
je sais pas si on a des gamers ou des gameuses autour de la table, mais il se trouve que, alors bon, moi aujourd'hui j'ai 25 ans et j'aurais pu connaître avant, mais ma première console ça a été du coup la PlayStation 2, qui reste ma console de cœur parce que j'ai connu énormément de jeux et j'ai découvert le gaming par ça. Et en fait, en retrouvant l'objet, je me suis rendu compte que, enfin, c'était pas du tout ergonomique comme le sont aujourd'hui les consoles. Alors bon, faut avoir.
C'est carré, ouais. C'était très.
C'était très angulaire. Et encore, c'était moins pire que Xbox. Je déteste Xbox. Donc, je trouvais que leur manette était juste énorme et c'était n'importe quoi. Mais ça m'a replongé vraiment dans la nostalgie des jeux que je faisais avant. Alors, je sais pas si vous étiez beaucoup des gamers ou des gameuses autour de la table.
Un peu trop.
Trop, carrément.
Qu'est-ce que c'était PS? Parce que Nintendo, tout de suite, on voit, c'est Mario, c'est Zelda, tout ça. Mais est-ce que PS, c'était quoi le...
Alors, en fait, le FIFA? PlayStation, oui, c'est tout FIFA. Un tas de studios, mais ils ont aussi des exclusivités. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des studios qui bossent que pour eux et des jeux qui sortiront que pour eux. Par exemple, à l'époque, on pouvait...
Zelda, c'est que Nintendo.
Du coup.
Ouais.
Tomb Raider, Uncharted. Uncharted, par exemple, c'était que à Sony. Donc il y avait pas du tout ça sur Xbox.
Une console sans jeu, c'est nul, quoi. Donc il faut vraiment
mais chaque console à l'époque, chaque console avait vraiment.
Et toi, c'était quoi? T'étais la team quoi? Alors,
moi, Ratchet et Clank à mort. C'est des jeux.
Ratchet et Clank.
Tu te détends très vite.
Clank. D'accord.
Non, mais après, moi, c'est vraiment des.
Ça parle pas du tout.
Mais
à...
c'est... Jack et Dexter, ça te dit quelque chose?
Non.
Bon, ça c'était des trucs qui c'était la même chose mais en copier-coller chez les concurrents.
Ah, je suis trop jeune.
Mais moi après j'avoue que c'est des jeux qui vraiment ont marqué vraiment mon enfance à tel point que du coup je me les suis tatoué sur le bras parce que c'est les jeux auxquels je jouais le plus avec mon
frère. Ah carrément.
T'as quoi comme tatouage?
C'est la radio mais
Mais la tatoueuse qui m'avait ça a fait quelque chose de magnifique et a rendu hommage du coup à la nostalgie que j'avais avec mon frère des jeux. Alors à chaque fois que je dis ça, mon frère n'est pas mort hein. À chaque fois, je dis oui. Là, c'est le jeu que je faisais.
Dès qu'il y a une nouvelle console, tu refais un tatouage ou
Alors, je déconne, mais j'y pense. Alors, je sais pas si finalement ma mère va écouter aujourd'hui, donc j'espère pas parce que là, elle
combien
va...
là
Là, on est à la PS5.
Donc, du coup,
je compte faire sortir, d'autres jeux comme ça pour la suite de mon tatouage. Voilà, je suis déjà à 75%.
Oui, ça monte à 75%, ça va bientôt tomber là. Hein, mais donne-nous une chose intéressante.
Mais voilà.
C'est quoi ton jeu préféré?
Beyond Good and Evil, un jeu qui est pas du tout connu pour le coup.
Voilà. Désolé. Oh. Mais bon, on a appris pas mal de choses quand même. Oui, c'est un petit moment nostalgique. Non, c'était bien. Ok. Florian, on parle de quoi?
On parle de livres pour ramener un petit peu de.
De culture.
De culture. Alors,
parce que, les jeux vidéo, c'est pas de la culture.
C'est de la culture. Geek, c'est culture.
Alors, je vais vous parler de deux livres. Alors, plutôt d'une écrivaine, c'est Constance Rivière. Je ne sais pas si vous connaissez ou vous avez déjà lu ses livres.
Alors, il y en a deux. Ah, ouais.
En fait, ça me dit un truc, mais je n'arrive pas à savoir d'où.
C'est des romans fleuves, non?
Alors, justement, ils sont assez courts.
Ah, ils sont belles, ta blague.
Ça fait... ça fait maximum 200 pages, donc c'est assez rapide à lire pour les personnes qui
n'aiment pas trop lire.
Qui aiment bien lire, c'est rapide, et ceux qui n'aiment pas trop lire, c'est rapide aussi, du coup.
D'accord.
Ça prend un peu plus de temps quand même, mais voilà. Donc c'est Constance Rivière, elle est née en 80, donc elle est assez jeune. Et c'est une belle découverte littéraire, en tout cas que j'ai lu ça il y a trois semaines à peu près.
Mais un titre en particulier?
C'est deux romans. Alors, elle a sorti Une fille sans histoire en 2019 et La maison des solitudes en 2021.
Elle va beaucoup mieux, hein.
C'est pas hyper joyeux.
Évolution. Ouais, la santé mentale.
On aurait une rubrique de Manu, hein.
C'est pas hyper joyeux, mais ça se lit assez facilement.
Bah heureusement.
C'est bien écrit.
T'as pas le temps de te tuer, quoi.
C'est assez fluide.
Et bah oui, Rivière, oui.
Et c'est assez juste dans la façon dont elle aborde les sujets. Alors, c'est deux sujets assez lourds, quand même.
Oh là là,
je suis désolé. Mais Une fille sans histoire, ça raconte donc l'histoire d'une fille.
Sans histoire.
Sans histoire.
Ça va être passionnant. S'il n'y a pas d'histoire, ça va être chiant.
Non, alors en fait, elle se crée une histoire. C'est-à-dire, elle se crée une vie, puisqu'elle se fait passer pour la compagne d'un homme qui est mort lors des attentats de novembre 2015 au Bataclan.
D'accord.
Voilà. Donc du coup, dès que l'histoire sort à la télé, il y a c'est très médiatisé.
Donc c'est assez récent quand même. Comme...
Oui, alors à chaque fois, c'est assez d'actualité. Du coup, elle écrit, là c'est 2019, 2015, Bataclan. Et l'autre, elle écrit à chaque fois sur des événements qui se sont passés et qui nous ont marqués, surtout. Mm-hmm. Donc elle se fait passer ça auprès de sa famille aussi. Du coup, elle rencontre les parents de ce jeune garçon qui est mort au Bataclan. Et en fait, elle se fait un petit peu embarquer dans une histoire elle-même. En fait, elle s'embarque dans ses mensonges. Et finalement, elle se crée une histoire là-dessus. Mm-hmm. Jusqu'au jour où la supercherie est dévoilée. Donc, au final, on connaît déjà l'issue en fait, du bouquin, de l'histoire. On sait très bien qu'elle sera découverte.
Ça va mal se terminer, oui.
Et que ça va mal se terminer. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment justement Constance Rivière arrive du point A.
D'accord.
Au point
et son
B,
deuxième bouquin, c'est la suite ou c'est une autre histoire?
Alors non, pas du tout, c'est une autre histoire.
D'accord. Alors je ne sais pas si tu auras le temps de la faire, mais vas-y.
Si, 50%. Bon. Toujours à ce moment, en fait. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui cherche la vérité sur sa mère et sa grand-mère, puisque la mère et donc sa mère, donc la grand-mère de
oui, c'est la même famille, on a bien compris.
Il y a un lien qui est cassé, en fait, donc il y a un secret de famille, en fait. Et ça se passe sur fond de Covid. Alors jamais la maladie est citée dans le bouquin. Ouais. Mais on comprend bien de notre expérience et de ce qu'on a pu vivre de la période Covid. C'est quand même ça qui se passe. Et donc voilà, sur ce fond de maladie, la grand-mère elle est en train de mourir en fait. Et elle recherche les choses. Alors sur des cahiers, la grand-mère écrivait tout sur des cahiers. Et c'est assez tragique au final. Enfin, les deux bouquins sont assez tragiques.
Bah oui, je vois ça, oui.
Mais c'est assez doux.
Tu passes un bon été?
C'est bien amené. Non, mais c'est bien amené.
Ah oui, ça va dans la vie.
Tu peux nous en parler.
Et alors, peut-être que cette façon d'aborder du coup les tragiques, c'est peut-être lié à son père aussi, à Constance Rivière, parce que c'est Jean-Louis Rivière, un célèbre dramaturge et théoricien du théâtre.
D'accord.
Voilà, Bruno, si ça t'intéresse.
Ouais.
Apparemment, non. Bon, voilà.
Bah, t'as réussi à tout faire. Bravo.
Oh, c'était vraiment très intéressant.
Et puis, t'as eu un stop sur sur le fil. Sur le fil. Allez, Sandra, de quoi qu'on prose.
Hop là. Alors, moi, ce soir, je voulais rendre hommage aux méduses. Alors, vous en rencontrez sur la plage pendant les vacances.
Ouais,
pour moi, elles
bon.
Sont indispensables.
Ah bon?
Et effectivement, je vous parle pas des méduses, effectivement, qui vous ont piqué aux fesses et donné des boutons pendant votre enfance, mais tout simplement de la nostalgie des sandales en plastique. Vous vous souvenez? Oui. Les méduses.
Oui. Ah, on appelait ça des méduses, c'est les anciennes crocs, quoi.
Les sandales de plage.
C'est ça?
Oui, c'est les sandales de plage, en fait, qui étaient très en vogue dans les années 80 et qu'on achetait au supermarché. Ça s'appelait même les tatates du pauvre à l'époque, donc rien à voir avec le sac de Jacques Birking.
C'est ce qui est clair. Et c'était transparent, c'est ça?
Ouais, c'est transparent, c'est en plastique.
Ah, et c'était pour. Il y avait des les cailloux qui se coinçaient dedans.
Ah non, juste,
ça fait mal. Ouais,
mais
ça fait mal, hein.
Ah non, mais justement, c'était fait exprès pour grimper sur les rochers et nager dans l'eau sans danger. C'était fait exprès.
Oui, mais les cailloux, la sable, ils se mettaient en dessous et des fois, c'était pas.
Oui, parfois.
Ouais, c'était pas. Puis au niveau esthétique, je suis désolé.
Pour pas marcher sur les.
Il y en avait toutes les couleurs, je sais pas si vous vous souvenez. Et la première sandale de plage, elle est arrivée en 1946 dans le village, dans un village en Auvergne qui s'appelle les Sarrés.
Pas du tout au bord de la plage, du coup.
Non, c'est... du tout.
Sandale de plage en Auvergne.
Et
bien
elle s'appelait
sûr,
la Sarrésienne.
D'accord, c'est, voilà. On les appelait pas sandales de plage, donc du coup.
Ouais, et c'est arrivé après la guerre parce que le cuir venait à manquer, en fait, comme matériau. Et du coup, l'inventeur, c'est Jean Dauphin.
Avec de la peau de dauphin.
Ouais, c'était un coutelier en fait, tout simplement. C'est bizarre, rien à voir avec les chaussures au début. Mais en fait, il a pris le plastique pour faire des. En fait, au début, il l'a mis à un couteau. Vous savez le comment on appelle ça? La manche du couteau.
Ouais.
Et voilà.
Il a forgé le plastique dessus.
Ouais, voilà, c'est ça. Et ensuite, il en a fait pour les chaussures.
D'accord.
Tout simplement.
Ok.
Alors, dans les années 60, tout le monde en porte, évidemment. Et on lui reconnaît une bonne résistance à cette chaussure. Elle est capable de résister aux moussons tropicales et à la moisissure parce qu'elle a été d'abord exportée en Afrique, etc.
Alors je crois qu'elle est elle a pas résisté.
Et on lui donne... Non, alors, si, je suis alors... encore là.
Non.
Alors, il n'y a pas le casque. Il n'y a pas le casque, mais du coup, tu arrives à 100%, effectivement.
Ah ouais, elle avait préparé une chronique, mais alors...
Mais en plus, ouais, c'est parce que moi, c'est la nostalgie. Je mets toujours mes sandales en plastique à la plage.
D'accord. Ouais.
C'est perturbant d'avoir une belle chronique qu'on aime vraiment.
Et surtout que c'est revenu à la mode depuis 10 ans, là.
Ouais, c'est maintenant... les Crocs qui remplacent.
Ah non.
Non, il y a vraiment
ça s'appelle la marque Méduse et ça maintenant c'est 95 euros le prix d'une paire de chaussures qu'on met en ville.
Ouais.
Et oui, c'est pas du tout pareil.
Avec des chaussettes.
Ah oui, bon, ça. Ah non, mais attendez, vous avez dit, vous avez des touristes mal à côté de chez vous ou quoi? C'était.
Il y a un sac Birkin.
Pour les enfants, c'est mignon. Parfait.
Ouais, alors le sac Birkin coûte un peu plus cher du coup.
Pour les adultes.
Ouais.
Enfants et adultes.
Ouais. Mais par contre, vraie question, Bruno. S'il y a des chroniques comme ça qu'on n'a pas réussi à faire, est-ce que tu penses que plus tard, on pourra essayer de les recaler?
Vous pouvez essayer.
On va réaméliorer notre truc.
On sait jamais.
Est-ce que vous en avez déjà dit juste quand même pour savoir? Ou est-ce que je suis la seule à avoir un nostalgie?
Si, ouais, quand j'étais petit, j'en avais.
Je vois pas du tout
ça. Moi, j'allais dans l'eau que avec ça.
C'est ça, ouais, côté des cailloux.
Moi, j'en avais. Si, j'en ai toujours, moi.
Moi, j'en avais toujours.
D'accord. Moi, quand j'étais jeune, et pourtant, en 99, hein, donc. Non, mais même moi, j'en ai eu, donc oui, je vois.
Très bien. Tiens, tu parlais de recycler. Moi, dans mon tiroir, j'ai retrouvé le texte de ma chronique de la dernière émission.
Ah.
Eh ouais. Où je parlais de Goldorak. Je sais pas si vous vous souvenez.
Mais du coup, tu t'es fait couper ou pas sur celle-ci?
Alors non, j'ai pu tout faire.
Ah bah.
Mais sauf que le dessin animé des années 70, hein, vous savez, Goldorak. Je vous disais qu'il y avait une BD et un jeu qui sortaient en fin d'année, mais il y a une nouvelle info. Donc je reviens dessus. Il y a un nouveau dessin animé Goldorak qui va sortir. Ça y est, un nouvel anime. Voilà, ça s'appellera Projet G ou Goldorak U et il sera réalisé par le créateur original de la série.
Ok.
Voilà, Gonagai. Ouais. Et donc voilà. Alors vous verrez par contre le dessin d'Actarus, c'était un petit peu bizarre parce qu'il a maintenant 18 ans. C'est un petit peu perturbant. C'est pas du tout la même tête que qu'il avait avant. Voilà. Je sais pas. On verra. Nouvelle génération à découvrir. Je ne sais pas. Je sais
d'accord,
pas du tout quelle sera l'histoire.
T'as 10% des infos.
Oui, voilà. L'info vient de sortir. Non, mais l'info vient de sortir, c'est juste un teaser qu'il y a. Tiens, il y a un story. Il vient d'arriver là sur le grand écran.
Oui.
Ok, très bien. C'est Olivier qui a. Je pense que c'est Olivier qui a voté pour ça. N'hésitez pas à écrire en chat également si vous voulez nous donner plus d'informations. Allez, on va retrouver le Graal. Mais alors, c'est pas exactement le même Graal que dans nos précédentes émissions de CMA.
Ah.
Cette saison, le Graal a décidé d'être joueur. Vous allez avoir 2 minutes pour trouver le sujet de sa rencontre. Là, par exemple, le Graal doit vous faire découvrir une série télévisée. Donc, pour l'occasion, la voix de Manu, chroniqueuse de DMT, a été clonée. Voilà, alors c'est en effet une intelligence artificielle que vous allez entendre et on croirait vraiment entendre parler Manu, mais ce n'est pas Manu.
Ouais, c'est vraiment bluffant. Hein.
C'est bluffant.
Ouais, vraiment.
Très perturbant.
Alors ce clone va donc vous parler d'une série qui n'a rien à voir avec Manu, hein, c'est juste pour ça. Le but du jeu, donc, c'est très simple, c'est d'être le plus rapide pour trouver. Alors si vous nous écoutez en direct, eh bien vous ouvrez le chat sur le site radio-g.fr et vous donnez le nom du film, enfin de la série, dès que vous l'avez et on vous citera à l'antenne et bien sûr ici autour de la table, on va jouer. Alors attention, aujourd'hui c'est compliqué, je vous aide un peu, c'est une série qui a été diffusée sur Canal+. C'est parti. Salut, partons à la rencontre d'une série. Vous postulez pour un emploi hors du commun. La directrice adjointe vous accueille et vous explique le poste en vous donnant des indices. Vous avez 2 minutes pour retrouver le titre de cette série.
Soyez le plus rapide. C'est parti.
Bonjour, je suis Marie-Jeanne Dutilleul, directrice adjointe. Je vais vous expliquer notre rôle. Nous sommes un département qui pilote à distance les agents clandestins, les plus importants des services de renseignement français. 6 agents opèrent sous une fausse identité, dans des pays hostiles, pour recruter et gérer des sources d'informations. Le bureau assure leur sécurité, leur formation, leur suivi psychologique et leur rapatriement. Votre poste est celui d'analyste. Votre mission sera de traiter les informations transmises par les agents clandestins. Vous suivrez le quotidien des agents clandestins en remplacement de Marina qui est partie en Iran sous couverture d'une experte en sismologie. Vous allez mesurer les enjeux, les risques et les dilemmes auxquels sont confrontés les agents du renseignement. Notre quotidien est fait d'amour, de trahison, de manipulation, de torture et de terrorisme. Si vous êtes passionné par le renseignement et l'espionnage, si vous avez une grande capacité d'analyse, de synthèse, de logique, si vous maîtrisez les langues étrangères, si vous êtes discret et loyal, alors vous avez le profil idéal pour rejoindre le bureau.
Avez-vous retrouvé le nom de cette série légendaire? Voici quelques secondes de répit. Il s'agissait du Bureau des Légendes, une série de 50 épisodes de 2015 avec, entre autres, Mathieu Kassovitz. À bientôt pour une nouvelle rencontre. Retrouvez-nous sur Question Graal, sur les réseaux sociaux et les plateformes de podcast.
Voilà, et ben bravo à...
Bravo donc, Olivier.
Oui, et puis bravo aussi, ici, vous avez trouvé, il y avait Robin qui avait trouvé, et puis notre public qui a trouvé également le Bureau des Légendes. Donc à retrouver sur le site radio-g.fr, rubrique Podcast Plus. Vous pouvez jouer cet été si vous voulez, il y en a plein. Voilà, pour essayer de trouver, vous avez des séries, des films et des musiques. Dans un instant, on va jouer à la chronique mystère. Autour de la table, vous allez piocher un sujet. Il faudra bien nous le vendre tout à l'heure. Les auditeurs voteront en vous écoutant. Alors vous avez donc intérêt à être bon, vu que les sujets mystères ne le sont pas toujours. Donc, en attendant, une petite pause. Bon, alors, si elle vous plaît pas, vous pouvez aussi la stopper depuis le site radio-g.fr. Hein. Donc, si vous nous écoutez en direct, n'hésitez pas à aller là-bas pour stopper. Seulement, si elle vous plaît pas, sinon vous l'écoutez, évidemment. Alors, je suis sûr que vous connaissez ce titre. Par contre, le nom du groupe et même le titre vous sont sans doute inconnus puisque c'est La Petite Culotte qui chante... La Goffa Lolita.
T'as toujours des chansons qui sont géniaux.
Je suis sûr que vous connaissez. C'est tout un programme, vous verrez. En tout cas, c'est très musique d'été. On se retrouve dans un instant pour la chronique mystère.
L'autre soir, on profitait d'une bonne bouteille dans la vieille ville ajaxienne. Quand elle est arrivée, elle est entrée. Ne souciant pas du regard des autres, elle a traversé toute l'allée. Mais c'était qui? 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 C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? C'était Loli. C'était Loli. C'était Lolo. C'était Lola. C'était Loli. C'était Lolo. C'était Lola. C'était la goffa Lolita. C'était Loli. C'était Loli. C'était Lolo. C'était Lola. C'était Loli. C'était Lolo. C'était Lola. C'était la goffa Lolita. Et j'attrape Lolita. Et je me prends une chapate. Car les femmes du 20e siècle méritent qu'on les respecte. Elle est entrée comme un mirage, la tête haute, ne souciant plus du regard des autres. Elle a traversé toute l'allée. Mais c'était qui? 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 C'est qui C'est Eloli, c'est Eloli, c'est Elolo, c'est Elola. C'est Eloli, c'est Elolo, c'est Elola. C'est la gonfa Lolita. C'est Eloli, c'est Eloli, c'est Elolo, c'est Elola. C'est Eloli, c'est Elolo, c'est Elola. C'est la gonfa Lolita.
T'entends plus, voilà, c'est bon.
Pas bien. Ils ont coupé.
Ouais. Tu as appuyé sur le téléphone de quelqu'un d'autre.
C'est vrai.
Je ne donnerai pas ton nom, mais.
Bon, eh ben, tant pis, voilà, c'est la petite culotte qui chantait la gofa Lolita. Ouais, quand même, on a écouté pendant longtemps. Moi, j'aurais cru que ça n'aurait pas duré si longtemps, donc c'est très bien.
Oui.
C'est entraînant.
Allez, vous êtes toujours dans DMT sur Radio G, l'émission qui vous donne le pouvoir. Et si vous ne rejoignez que maintenant, rendez-vous sur le site radio-g.fr sur votre smartphone ou votre ordinateur et accédez à la page des votes. Vous allez pouvoir juger en temps réel les chroniques qui vont suivre. C'est le moment de la chronique mystère. Alors, là,
t'as vu, hein, je le fais un mauvais porno.
Mmh. Oui. Quoi, t'aimes pas?
Bruno, alors, on y téléphone va. Rose.
Donc, des chroniques mystères. On va commencer par Florian.
Oh là là.
Donc, tu as reçu une chronique que tu ne connaissais pas juste avant la pause, mais il faut nous la vendre. Et vous pouvez voter directement sur radio-g.fr, savoir s'il est intéressant.
Eh bien, je vais vous raconter l'origine d'une expression. Et vous allez me dire si vous la connaissez ou pas. Alors, l'expression, vous allez la connaître, mais est-ce que vous savez d'où ça vient? C'est l'expression « cela péter ».
Ah,
oh, j'ai peur.
Cela pété.
Alors, à votre avis, d'où ça vient déjà? De quel pays ou de quelle région du monde ça peut venir, cette expression?
Je sais pas. Hein.
Je sais pas, mais j'ai peut-être une idée d'où ça vient.
Ah, bah vas-y. D'un pays,
le
pays?
Non, pas de pays.
Ça n'a rien à voir avec le paix.
Non, pas du tout.
Non.
Pas du tout, du tout. En fait, c'est une expression québécoise à la base.
Ah, cela pété.
Cela, voilà, avec l'accent.
Avec l'accent.
Merci.
Tu veux dire la pété ou ça?
C'est ça.
Alors en fait, à l'époque, au 19e siècle, ça date du 19e siècle, les personnes portaient des bretelles.
Ouais.
Alors le lien entre se la péter et
bah
bretelles.
Ah oui, donc c'est ce que je pense.
C'est ce que j'ai pensé.
Est-ce que D'accord. c'est se péter le bide? Genre alors, ils ont trop mangé, donc du coup ça fait alors soit péter les bretelles, soit péter le bide. Il y a un rapport ou pas?
C'est pas forcément parce qu'ils ont trop mangé, mais effectivement il y a un rapport avec les bretelles puisque les bretelles ça claque pas mal quand on tire dessus.
D'accord.
Et donc en fait, on tirait avec les pouces sur les bretelles, comme
et tu les relâchais et ça faisait splaf
et ça fait claque sur la poitrine et en fait en signe de fierté, voilà.
D'accord.
Et d'ailleurs l'expression complète c'est se péter les bretelles.
Mmh. Oh voilà.
D'accord.
Se péter les bretelles. En Afghanistan, les talibans, tout ça. Non.
Lui, il se pète.
Ah, non, ils ont pas beaucoup de bretelles là-bas.
Se la péter les bombes.
Oui.
Ah oui, vous.
Tu pètes un peu la bretelle quand même.
En tout cas, t'es qu'à 50%. Bravo. Alors donc Sandra maintenant a une chronique passionnante.
Oui. Alors déjà, je voulais vous dire que c'était mon anniversaire la semaine dernière.
Oh,
ah, anniversaire.
Et que donc, on est au mois d'août et donc je suis Lyon.
Exact,
Lyon.
À Lyon, d'accord.
Voilà, on s'y gâche.
Je suis
astro.
Mais okay. Ça, voilà, donc pour vous dire qu'il n'y a aucun rapport entre ce que je vais vous dire maintenant.
D'accord,
c'est pas mal.
Elle veut son stop, elle. Hein.
Je veux juste pas lire la chronique.
Donc, les Lyons. Et les lions ont une vie sexuelle quand même hyperactive. Et alors pour vous, est-ce que c'est les lions?
Ah oui, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de rapport, c'est ça?
Je ne me reconnais pas tout à fait.
D'accord, ok.
On va dire, mais les lions, du coup, et les... pour vous, est-ce que c'est les lions et les du lion ou de la lionne, lequel est le plus dominant, on va dire?
Bah, voilà.
Le lion prend les décisions.
C'est la lionne
qui dirige.
C'est la lionne qui a la culotte.
Effectivement, donc c'est la lionne qui accepte de se reproduire et c'est elle qui décide, même avec le mâle dominant. Donc c'est, on va dire, c'est presque féministe, lionne féministe. Ils s'accoupleront toutes les 15 minutes et ce jusqu'à 50 fois par jour quand même.
Et alors, est-ce que tu te sens représentée dans ça?
30 secondes.
Ah, 30 secondes.
Ouais,
ah
ouais. 30 secondes, bon.
Toutes les 15 minutes, 30 secondes.
C'est long, 30 secondes.
24 heures. Non pas, c'est long. C'est fini, quoi. Bon, bah écoute, c'était intéressant.
Ah ouais?
C'était vraiment très intéressant.
Ok, allez, on va passer à Joe.
Alors moi j'ai une question d'abord à vous poser. Est-ce que vous avez une bonne apnée? Combien de temps vous tenez sous l'eau?
Oh, pas longtemps moi, une minute.
Je sais plus. Oh, une minute c'est bien.
Non ouais, deux minutes. J'ai mon beau-père qui m'a appris un peu.
Très bien.
C'est chaud, ça fait mal mais ça se fait.
Ouais.
À peu près 30 secondes mais 50 fois par jour.
Ah oui. C'est long. 30 secondes.
Quand il fait l'amour à sa lionne.
Exactement. Et ben dites-vous que comparé à vous, les paresseux peuvent retenir leur souffle 4 fois plus longtemps qu'un autre animal qu'on pensait.
Le paresseux
peut retenir son souffle 4 fois plus longtemps qu'un dauphin par exemple. Et les dauphins, ils peuvent plonger durant environ 10 minutes, alors qu'un paresseux, il peut retenir sa respiration pendant 40 minutes.
Mais pourquoi faire?
Par fainéantise?
Bah juste, ils peuvent.
Ils peuvent.
Ils peuvent.
C'est pas parce qu'ils ont un rythme biologique du coup qui est beaucoup plus lent.
Je pense que c'est leur organisme qui est lent en soi et qui ne fait pas beaucoup d'efforts et donc du coup ils brûlent pas énormément d'énergie. Oh. Donc je pense qu'on est pour ça parce que ça leur permet de rester immobile s'il faut. Ils peuvent même s'en servir sous l'eau donc du coup pour rester 40 minutes sous l'eau sans bouger.
Ah ouais.
C'est un excellent nageur. Il se déplace bien plus vite dans l'eau que dans les arbres.
Ah, un paresseux ça va sous l'eau.
Et ça va plus vite dans l'eau que dans les arbres.
On apprend des choses, c'est incroyable. Allez, c'est intéressant. Donc, voilà. Ok.
C'est vraiment très intéressant.
Caro, qu'est-ce que tu nous racontes?
Hey, j'essaie de mettre de l'ambiance pour rassurer. Mais pas du tout, en fait. Oui, eh bien, on va parler des gauchers et des droitiers. Vous êtes droitier?
Je suis droitier.
Qui est gaucher ici?
Je suis plutôt du centre.
Un gaucher. Ah oui, bah, en minorité, comme dans le monde. En fait, des études sérieuses ont montré que les gauchers auraient une espérance de vie inférieure aux droitiers. Oh,
merde. Dommage. À partir du moment où tu dis études sérieuses, oui.
Dommage. Alors, pourquoi?
Alors, en raison du fait que la société entière est pensée pour les droitiers.
Ah, ouais, d'accord.
Ce qui fait que, par exemple, les gauchers ont plus de risques d'accidents de travail, car beaucoup de machines sont conçues par les droitiers.
D'accord.
Tout est conçu pour les droitiers, et même quand on accouche d'ailleurs.
Est-ce que ton vagin il est droitier ou gaucher?
L'incision sera forcément faite par un droitier, donc les femmes ont beaucoup plus d'incisions faites sur leur droite.
Ah oui.
Car
ah.
le médecin en face coupe
non, sur
comme
leur
ça.
Gauche.
Non, il est non, droitier, si. Donc
je
il coupe comme ça.
Flo a raison. Du coup, c'est en miroir.
Bon, c'est pas grave.
Le vagin est en miroir. J'adore cette phrase.
On va peut-être pas rester là-dessus pendant une heure. Hein.
Non, je pense que c'est très important, Bruno.
Mais en tout cas, non. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que
j'ai fini la chronique.
C'est que t'as fini. Ben voilà.
Et du coup, ça veut dire que les voitures anglaises sont plus pratiques pour les gauchers ou pas?
Mais avec le
volant à gauche, je sais pas. Bah non, elles doivent être.
Vite vitesse. Parce que nous, c'est à droite, du coup.
C'est trop ambigu.
Je ne sais pas. Allez, on finit les rubriques mystères avec Robin.
Eh bien, moi, je vais vous parler de droit, donc vous pouvez tout de suite cliquer sur stop. En 75, si jamais je rentrais chez moi, que je voyais ma femme en train de coucher avec mon amant, et que je la tuais comme ça, de manière spontanée, parce qu'un crime passionnel, ça existe encore aujourd'hui, le terme de crime passionnel.
Ouais.
Sauf qu'en 75, jusqu'en 75, si je la tuais, j'étais, excusable.
1975.
Oui. Bah, après, dans le droit français, il y a des trucs, des fois, qui sont bizarres. La femme n'avait pas le droit de porter de jean dans le droit.
Oui. Attends, on pouvait tuer sa femme parce qu'elle nous trompait en 1975.
C'est excusable, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de procès? C'est bon.
Dans tous les cas, il y a un procès puisqu'il y a la mort d'une personne.
Circonstances atténuantes, on va dire.
C'est ça. Et encore aujourd'hui, mais là, c'est vu différemment. Aujourd'hui, si jamais je tue ma femme parce que je la vois me tromper, je vais pas avoir les 30 ans ou je sais pas quoi ferme. Si jamais c'est vraiment montré que c'est un crime passionnel, que j'ai été pris sous le coup de l'émotion, que de base je suis quelqu'un de très gentil et tout, parce que évidemment je suis quelqu'un de
là
très
c'est dans le cas où c'est pas prémédité du
oui voilà oui, c'est, voilà, c'est pas prémédité pas, c'est...
Ah, oui.
Et en 75 c'est juste que c'était tellement banal entre guillemets de se dire que elle a qu'à pas tromper celle-là donc je la tue,
mais je suppose que si une femme tuait son mari ce serait pas la même chose.
Exactement, là ça marchait pas. Et donc en 75 après une dernière affaire, ça a été enlevé de la loi ce terme excusable.
Mais alors je sais pas si t'as la réponse, mais est-ce que c'est pareil si le meurtrier il tue l'amant ou il tue la femme?
Ah oui,
parce que c'est un crime passionnel, c'est considéré comme un crime passionnel aussi. Voyons. Normalement quand il tue l'amant.
L'amant, c'est un homme, voyons.
Ah oui, lui, il faut bien
qu'il y ait une justice pour
lui. L'amant n'a rien fait. Ouais. C'est vrai que l'amant n'a rien fait dans ces conditions.
Bah oui, c'est elle qui a guiché. Alors, 75, c'est les femmes qui a guiché, hein.
C'est ça.
Ok, écoute, c'est intéressant.
C'était vraiment très intéressant.
Il est temps de rouvrir vos tiroirs. Les auditeurs seront juges de l'intérêt de vos propres sujets sur le site radio-g.fr en votant en live ou en envoyant un message sur le chat. Faites-vous plaisir, c'est parti. On repart avec Sandra.
D'accord, alors comme je vous disais, ben, j'ai fêté mon anniversaire cette semaine.
Oui, on te l'a fêté aussi.
Merci, oui. Voilà. D'ailleurs, j'ai été très touchée, merci voilà. beaucoup. Et du coup, je me suis posé la question, pourquoi fête-t-on son anniversaire, évidemment, et depuis quand?
Ah oui. Oui, pourquoi pas, oui, pourquoi un an spécifiquement, pourquoi, ouais,
oui. Pour... Alors, du coup, ben, on fête son anniversaire, bon, évidemment, on va dire pour se marquer sa naissance, se souvenir du passé, voilà, se voir progresser dans l'avenir, on va dire.
Ouais.
C'est aussi un marqueur social parce qu'on réunit des gens autour de soi, en général.
Tout à fait.
Voilà. Et, l'idée, c'est qu'en fait, on a commencé à fêter l'anniversaire, qu'à partir de la Révolution, en fait. Parce que ce n'était pas une tradition, en fait, de fêter son anniversaire.
Ah oui, d'accord. Et donc, oui. Avant 1700...
Ouais. Alors, pourquoi, à votre avis? Est-ce que vous avez une idée?
Parce qu'on ne savait pas. On ne savait pas les dates de naissance. On ne savait pas les dates de naissance, c'est
ah,
ça
c'est
ah,
ça. Mais oui. On ne savait pas les dates. Oui. Sa date de naissance, c'était très approximatif. Donc, d'accord. En fait, on fêtait
le 1, le 2, le 3.
Non, on fêtait le baptême, en fait, ou le jour du Saint-Patron.
D'accord. Donc, il y a eu quand même une fête.
Voilà, et en fait, il faut savoir en fait qu'au Moyen Âge aussi, l'anniversaire n'était pas le jour de naissance, mais en fait le dernier jour de notre mort.
Bah super, on n'est plus là pour fêter.
Oui. Ouais, c'est bizarre, oui, c'est tout à fait. Ça veut dire qu'en fait, c'était comme je vous disais, on fêtait soit le baptême, soit effectivement le dernier jour de la vie en fait, parce qu'il allait dans l'au-delà, donc c'est une sorte de renaissance en fait.
D'accord.
Et tous les ans, on commémorait.
Encore aujourd'hui, on dit que c'est l'année, la dixième année de sa mort, etc.
Et du coup, l'anniversaire était religieux, si vous préférez, avant d'être familial.
Oui, vous voyez ce que, d'accord, ouais, le baptême.
C'est plutôt cette idée-là.
D'accord.
Et ensuite, la bourgeoisie, en fait, elle commence à avoir un intérêt pour les horoscopes. Et donc, on commence à noter la date et l'heure des naissances pour prédire les destins.
Ah, c'est grâce à ça qu'on a eu cette...
Voilà.
D'accord.
Et donc, c'est à partir de là, enfin, à part... C'est une des, je veux dire, des causes,
raisons, ouais, ouais.
Des raisons. C'est à partir de là qu'on a commencé à savoir la date de naissance et du coup à fêter vraiment les anniversaires. Et à partir de 1792 aussi, les communes notent les naissances dans les registres d'état civil.
Mmh.
Voilà. Et donc, peu à peu, en fait, ça est venu au monde. L'anniversaire est aussi une tradition, on va dire, qui remonte au pharaon, donc à l'Antiquité, mais en fait, on ne fêtait pas l'anniversaire dans le sens date de naissance réellement, puisqu'on ne la connaissait pas. Oui. C'est plutôt, on fêtait, le pharaon, il fêtait en fait son jour de naissance, car lui, c'était son premier jour de règne. Oui.
D'accord, enfin, c'est pas tout le monde qui le fêtait.
Voilà, c'est ça, on va dire que c'était pas populaire, c'était, voilà, il y en a qui le savaient et d'autres qui ne savaient pas. D'ailleurs, vous savez aussi pourquoi on ne connaissait pas sa date de naissance à l'époque? Parce que beaucoup de gens ne savaient pas compter, en fait, tout simplement.
Ah oui, aussi, oui.
Donc, il y avait, voilà, c'était aussi une question, j'allais dire, d'éducation, de culture.
Très bien.
Ah bon. Oh là là,
Il t'a déjà mis le jingle, comme quoi c'était intéressant.
T'avais encore des choses à dire.
Bon, t'es à 75%.
Le gâteau rond vient des Grecs. Pourquoi il y a un gâteau qui offrait des gâteaux.
Non, t'aurais eu les deux, du coup. T'aurais failli avoir un set intéressant si t'étais arrêté avant, mais là t'as eu juste. Voilà.
Ah, j'aurais dû faire la chanson Happy Birthday. Pourquoi elle vient d'où elle vient?
Ah, bah,
elle est en 1893.
Tu nous le recycleras.
Voilà.
Ben oui. Robin, on parle de quoi?
Eh bien, moi, dans mon tiroir, j'ai trouvé un minuteur. Un minuteur qui ne, c'était pas une bombe, je vous rassure.
De cuisine, c'est ça?
Non. Un minuteur qui marquait 31 jours et 2 heures. Voire même 31 jours et 1 heure, bientôt.
Ah bon? 31 jours.
Alors, là, par contre, tu m'as vu tapis.
Alors, qu'est-ce que c'est joué? Pourquoi ça minutait ça?
Pourquoi ça minutait ça? Parce que, il y a, la Coupe du Monde du rugby. En France.
Ah oui.
Et oui.
Ah.
Dans 31 jours.
Alors, et c'était la chronique de Nicolas de la 15 jours. Attention, tu recycles.
Ah non, mais alors là, justement, c'est qu'il y a eu, entre-temps, la fin de la préparation de l'équipe de France et le début du match de la rencontre entre Écosse-France et qui va d'ailleurs faire son retour. Donc, ils ont fait l'aller, ils vont faire le retour le 12 août.
Ouais.
À 21h. À Paris. Donc on retrouve maintenant les joueurs qui sont de plus en plus exténués et
oui,
ça, se voit, ça se voit.
Ouais. Désolé.
Je comprends.
Ça ne passionne pas les foules. À la limite, tu aurais parlé un petit peu peut-être du football féminin qui cartonne en ce moment également. Allez, on continue avec Flo. Oh Flo, vas-tu nous passionner?
Alors moi, j'ai retrouvé dans mon tiroir l'exposé que j'avais fait sur les proboscidiens.
Il a envie de se faire cartonner.
Vous savez c'est quoi les proboscidiens?
Non, je ne sais pas.
Alors, en fait, c'est l'ordre auquel appartiennent les éléphants dans la classification des espèces animales.
D'accord.
Ils ont le même ancêtre commun qu'avec les Cyréniens. Alors, c'est les dugongs et les lamantins. Voilà. Donc, les éléphants et les lamantins sont liés.
D'accord.
Mais je ne voulais pas du tout vous parler de cet exposé. Non. Ouais. Parce que plutôt des mystères d'évolution, parce qu'il y a une info qui est sortie récemment sur les baleines.
Ouais.
On vient de retrouver le fossile du plus lourd animal ayant jamais vécu sur Terre. Et c'est l'ancêtre des baleines actuelles. Et il s'appelle le Perucetus colossus.
D'accord, il pesait combien lui alors du coup ?
Il pouvait peser entre 85 et 340 tonnes.
On s'en va les couilles.
Oh non !
Je crois que dernier mot scientifique, là,
c'est pas mal. C'est pas mal. Bah, on a eu l'info.
Voilà, ouais, vous pourrez aller chercher.
La prochaine fois, tu recycleras, tu feras l'exposé de quand tu étais petit. Peut-être
Caro, on parle de quoi ?
Ouais, alors moi, pas dans mon tiroir du coup, parce que là, j'assumerai pas du tout, mais dans le tiroir de mon ami Nicolas Mariano qui nous écoute et qui vote.
D'accord.
Eh bien, on trouvera cet été des Birkenstock. Vous voyez ce que c'est ?
Non.
La petite chaussure allemande.
Oui, je vois, c'est
ultra confort.
La concurrente de la sandale de plage.
Exactement.
De l'ami des méduses.
Eh bah oui, on est raccord, Sandra. Mais du coup, elle a un petit truc, une petite particularité, c'est qu'elle est orthopédique, celle-ci.
Oh, c'est
elle a une semelle. Alors attention, qui dit orthopédique dit quand même ultra confort parce que le kitsch, c'est chic.
Oui, mais ça. Non, mais ça se voit qu'elle est orthopédique. Tu vois pas, c'est une semelle.
Bah non, mais dedans.
Un petit peu quand même.
Ah, oui,
on voit que c'est pas plat et ça fait quand même
chaussures,
ultra
quoi.
Forme. Bon,
d'accord.
Mais c'est joli parce que maintenant il y a plein de couleurs, il y a plein de formes.
Ouais.
C'est hyper bien travaillé, c'est ultra tendance et surtout c'est pratique pour tout le monde et surtout les papys allemands qui ont 70 ans et qui mettent des chaussettes dedans.
Ah oui, d'accord.
À ne pas faire, Bruno, ça.
Bah non, je sais.
Non, on mettra quoi ça, Birkenstock. On se met pieds nus, c'est mieux.
D'accord.
Et puis on peut mettre avec tout des petites robes ou des tenues un peu plus légères, n'est-ce pas, Florian? Tu vas la mettre cet été?
Oui. La robe.
Mais
ou...
on évite le cuir marron ou noir ou le truc un peu pesant, un peu lourd avec le short. Et puis ah bah oui, quand même, parce que c'est un peu border quand même comme chaussure.
Ah oui.
On peut vite déraper dans le côté beauf. Mais c'est ça qu'on aime en fait cet été.
Il va être content, le copain qui t'écoute.
C'est une chaussure risquée.
Il vient d'apprendre qu'il était beau. Enfin,
c'est très très drôle.
Mais c'est un petit côté ringard, mais c'est un petit côté quand même si on porte bien et que voilà, c'est fun.
Moi je préfère les méduses, un vrai bruit.
Ah bah il y a deux écoles, ouais. Il faut choisir là. C'est les méduses ou les Birkenstocks, les garçons.
D'accord, bah.
Un pied de choc.
Ouais, et c'est.
Non.
Pieds nus. Bon bah écoute, c'était intéressant, allez, on y va.
C'était vraiment très intéressant.
Bravo, oui, bravo. Hein.
Le nom de la chaussure ?
On finit avec
les Birkenstock.
Bon, la prochaine fois, je fais la tongue.
Alors moi, je suis pas du tout dans la mode. Moi, j'ai retrouvé une photo, mais qui date d'il y a quelques années. J'avais pas la date, mais c'était pendant une sortie scolaire. Et on me voit juste manger un sandwich. Et je me suis rappelé ce qu'il y avait dans ce sandwich. Et alors, moi, j'en étais très fier, et pendant très longtemps. Et je vous demanderai à vous si vous avez des sandwichs un peu de la honte, comme ça. Et en fait...
Ah, c'est toi qui l'avais fait ?
Ouais, en fait, c'est celui que j'aimais étant petit.
D'accord.
Un sandwich que j'aimais étant petit, et mon frère se foutait beaucoup de ma gueule là-dessus. C'était un sandwich camembert ketchup cornichon.
Oh !
Bah pourquoi, le stop est parti là.
Pourquoi pas ?
C'est pas mal.
Alors, pourquoi pas. Moi je mets de la confiture avec le camembert. Donc,
ah oui, moi aussi, confiture de cerise.
Ah ouais, c'est ça, la mûre, la cerise.
Autant tu vois, fromage et fruits, ça fonctionne plutôt bien en soi dans la gastronomie même française. Ouais. Mais par contre, là c'est vrai que.
Bon, ketchup,
je pense
c'est
que
vrai.
Le ketchup. Je pense que j'étais peut-être trop en avance sur mon temps. Mais je pense qu'aujourd'hui je le remangerais, j'aimerais quand même. Donc voilà.
Mais tu t'en refais pas souvent ?
Non, faut pas déconner. Non. Aujourd'hui, je mets des très bons trucs. Et j'avoue que je fais des très bons sandwichs. Mais le camembert ketchup cornichon, non,
okay.
Je le laisse.
Bon, allez, c'était limite, mais c'était intéressant.
Ouais. Oh là là, qu'est-ce que c'est intéressant!
Allez, c'est. C'était juste. Oui, t'es arrivé juste à. Voilà, le dernier.
Ouais, j'étais à ça.
Ouf.
Ça passe, hein.
Allez, c'est le moment de la pause improbable. Donc, un titre venu du fin fond du tiroir que vous n'avez pas entendu depuis longtemps, voire heureusement jamais écouté. Mais voilà, c'était dans le tiroir, alors on le ressort. Alors, vous pouvez de chez vous le stopper, on va voir combien de temps il va durer. Alors, vous votez pas autour de la table, on va laisser les auditeurs voter. Donc, pitié, votez. Ne le laissez pas en entier. Voilà, alors, la chanson du jour date de 1984, est interprétée par Alain Gillot-Pétré.
Oh.
Un célèbre présentateur météo qui nous a quittés en 1999, non sans nous laisser ce chef-d'œuvre musical. Voici pour la première et on espère la dernière fois Alain Gillot-Pétré avec Fréquence Météo.
Bonjour, c'est l'heure de notre rendez-vous sur Fréquence Météo.
Notre copain des Açores nous apporte le ciel bleu. Les nuages sont en vacances. La plage sent le sable chaud, ça baigne.
On s'en va les couilles, couilles, couilles.
Merci, merci public aimé. Ouais, ça a été rapide. Ils ont été.
Ah,
ils
une
ont été
tempête très de stop s'est abattue sur.
Ouais, vous vous rappelez d'Alain Gilles Pétré?
Oui, ouais, je m'en souviens. Oui. Bah, tout le monde l'aimait bien.
On l'aimait bien. Hein. Ouais. Il était
la
vraiment
chanson,
juste.
Ah, chanteur,
ah, vous l'aimez bien, mais il est quand même mort quand je suis né, moi. Donc,
oui, c'est ce que j'avais. Moi, j'avais un an. Bon, ouais, ouais, voilà. On connaissait pas trop, nous deux, hein, j'avoue.
Bah, disons que ça a marqué quand même une génération parce que. Non, mais il a vraiment été jusqu'au bout, en fait, de ses présentations. Et la dernière présentation météo, il s'est écroulé au milieu de sa présentation météo en disant je peux plus, c'est fini. En plein en direct.
Et de la présentation météo.
Alors il n'est pas mort ce jour-là, hein. Ah ouais. Mais on voyait qu'il était atteint d'un cancer, donc il était vraiment très affaibli. Et en plein milieu de ça, là, on voyait qu'il pouvait. Et il s'est arrêté en plein milieu. Ils ont envoyé la pub et voilà. Ouais. Et c'est pour ça que ça nous a marqué quand même. Et il est mort quelques semaines plus tard.
Oui, ouais, il y avait une super pub quand même, hein. Pour les camemberts. Ouais.
Pour les...
Non,
pour les camemberts.
Je vois pas le rapport.
Camembert, ketchup, cornichon.
Allez, on rouvre nos tiroirs et on remet les compteurs à zéro et on vote. Ça marche. Mmh. Ok, allez, on repart, on fait un petit tour. Caro, t'as une autre petite chose?
Bah, une autre petite, ouais. Quel est le point commun entre Ricky Martin et les papas de 45 ans? La chemise en lin.
Ah, ils ont...
Bah oui.
Les papas de 45 ans,
toutes
les chemises
en
lin.
Ah bah oui, au bout d'un moment, il y a...
Il y avait une blague ou...
Non, oui, il y avait une sorte de blague.
Soit c'est une blague de mode public, qui a une chemise en lin aussi.
C'est les blagues de mode.
Mais tu l'as?
Non, c'est pas une chemise en lin.
Ah d'accord, personne n'a la blague.
Bah peut-être que vous êtes trop jeune pour Ricky Martin, non?
Bah ouais, bah alors, il avait des chemises en lin.
Le chanteur latino avec les chemises ouvertes, oui, il avait des chemises en lin, les chemises ouvertes.
D'accord.
Ali, une chemise en lin. Non, non, mais vous voyez les chemises un petit peu kitsch qui étaient un peu froissées, mais qu'on portait exclusivement l'été.
Bien,
et le pire,
Lille en a. Il est en train de faire un malaise.
Désolé. Ouais. Bah oui, la matière ultra naturelle, c'est hyper pratique l'été, parce que évidemment l'avantage du lin et des fibres naturelles, c'est que en fait, elles ont des propriétés hyper intéressantes. Donc, le lin, en fait, ça fait quoi? Eh ben, ça garde la fraîcheur, tout en étant habillé. C'est incroyable, non?
C'est vrai.
Mais alors, le petit problème, c'est qu'on a eu ce fléau, comme la marque le blanc du Nil. Voilà. Vous vous souvenez pas?
Non.
C'est des petites boutiques qui poussaient partout en bord de mer, le blanc du Nil. Mais tu te sapais qu'en blanc, en fait.
T'as les deux, là, ils étaient en vacances ensemble, c'est pas possible. Non, mais nous, à la mer, on va à la mer.
Le temporel. Il y a des trucs, il n'y a personne qui a les rêves à part vous deux.
Ah non, le public se souvient.
Et le public aussi.
Personne n'a les références. Mais c'est incroyable, les gars, vous allez où?
Le plan du Nil, d'accord.
Et oui, et du coup, mais le problème, c'est qu'il ne faut jamais s'habiller en total look blanc.
Ah, et pourquoi?
En total look lin et blanc, parce que tu ressembles soit à Ricky Martin, soit à un papa de 45 ans.
Ricky Martin,
qui a lâché la rampe.
Ah bon?
Oui, mais il y a des fois, c'est un peu.
Mais c'est vrai qu'il y a des pantalons en lin aussi.
Oui, bah non, en fait, non, c'est non.
Bah,
alors, ou alors un peu travaillé, mais du coup, voilà.
Bon, allez, c'était intéressant.
C'était vraiment très intéressant.
Ah non.
Merci beaucoup.
Ouais, Joe, on y va.
Désolé.
Moi, j'ai plus rien.
Ok, alors.
Tu me prends des
pourrus? Moi, je sais pas si vous en avez déjà parlé, le phénomène Barbie.
Oui,
ah ouais,
oui. I'm a Barbie girl.
Ouais, vous avez parlé. Donc, avez-vous succombé au Rose Pig Lady de Barbie?
Ah ouais.
Alors moi je suis allé voir le film.
Oui, moi aussi je suis allé voir le film.
Je n'ai pas aimé du tout.
C'est vrai.
Non, pareil. Merci Bruno.
Alors,
moi j'ai
aussi,
tous mes amis.
Je suis allé voir le film
dimanche.
De
dollars, mais
on s'est habillé en rose.
Ah, vous avez fait rose.
Ouais, bah j'ai mon petit t-shirt là.
Ah, elle a son t-shirt. Ah, mais Barbie, elle a encore, elle a mis avec son t-shirt.
Et
c'est rose aussi.
Donc voilà, donc il y a 3 semaines, le film Barbie de la réalisatrice Greta Gerwig. Oula, je sais pas le dire. Gerwig mettant en scène la poupée iconique créée en 1959 par Ruff Handler. Le film vient de dépasser les 1 milliard de dollars, malgré tout, en 17 jours. Alors moi, c'est pareil, j'étais pas une fan de Barbie particulièrement. Mais
je crois que c'est la première fois que le film d'une femme atteint le milliard de dollars.
Une femme toute seule,
donc ça, par contre, c'est vraiment très cool.
C'est bien.
Que le film soit bien ou pas, c'est vraiment une bonne chose.
On va dire c'est un peu un ovni, le film, on pourrait dire. Un ovni, un peu.
Ouais.
Hein, avec son décor en plastique rose, là. Et il paraît qu'il y a pénurie de peinture rose dans le monde, vous saviez? De la teinte rose. Alors, je répète, de la teinte rose fluo de la marque Roscoe.
Ah oui, en plus, c'est très, très, très spécifique.
Donc, Barbie incarne une poupée qui va découvrir le vrai monde et ses imperfections. Mais au final, elle choisira l'émotion, la vieillesse, au lieu d'un monde en plastique parfait et éternel. Il y a quand même un message derrière, à la fin. Mais il faut quand même le chercher. Le message semble dire créez-vous des souvenirs, vivez. Un monde parfait est un monde répétitif où l'on ne peut pas se créer de souvenirs, où l'on est dans l'illusion du bonheur.
Mm-hmm. C'est un peu ça que j'avais dit. Il a pas l'air convaincu du tout, Bruno.
Bah, je joue pas au Barbie, moi, déjà.
Ah non, le film, c'était trop bien.
Il y a également un message féministe où l'on voit que dans le vrai monde, enfin, on met en avant les rapports hommes-femmes, en fait, dans le sens inversé.
Alors là, je suis pas d'accord avec toi. Parce que
un message féministe pour toi.
Non, mais vous avez vu la dernière image
non,
du film.
C'est pas ouf.
Enfin, c'est bien,
moi, je l'ai pas vu. Donc, ouais. Du coup, vous m'intriguez tous.
Non, mais ça va pas spoiler, mais.
Non, mais ça.
Non, mais à la fin du film, elle devient une femme. Et une femme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va s'échanger gynéco. Voilà. C'est la traduction du film,
oui,
c'est ça.
Vrai.
Il va s'échanger quoi?
Non, mais. Il va chez son gynéco.
Non, c'est plus pour dire.
Elle traduit ça comme ça.
Non, c'est plus pour dire qu'il y a une grosse différence entre vous et nous. C'est quand même ça, principalement aussi.
C'est aussi pour la blague. Non, Barbie n'a pas de vagin et donc là
oui,
elle a
vraiment voilà, elle fait la blague pendant tout
on
le film.
On est d'accord, c'est
moi je l'aurais plutôt vu en chef d'entreprise ou tout ça,
mais
oui,
en tant que elle passe d'une poupée à un être humain qui a des émotions.
Oui, mais réduire une femme à un vagin, je suis désolé, c'est nul.
Elle sera pas dans le côté parfait.
Vous dites ça, vous dites ça.
Moi c'est ce que je pense,
mais du coup le film réussit son coup parce qu'il y a débat, donc
oui, voilà, il y a
en vrai, oui.
Joe, tu jouais à G.I. Joe, toi?
Non,
c'est tout. Bah,
Joe. Ah putain.
Entre les deux.
Ouais.
Voilà.
Moi, j'ai pas aimé la fin, mais le début.
C'est aussi
bien.
Pour les collectionneurs, ça devait être très bien parce que.
Avec les petites références pendant le film, des
coupés
qui ont été.
C'est pas mal pour les collectionneurs.
C'est
très bien.
Quand même aussi, hein. Voilà.
Et puis pour Chanel aussi, parce qu'elle est habillée en Chanel de A à Z.
Ah oui, d'accord.
On le voit bien.
Mais ça, par contre, parce qu'ils ont vraiment.
Et en ce moment, il y a un phénomène, vous savez pas si vous avez compris. Alors, Barbie, je n'étais même pas au courant, je l'ai vu. Barbie Herbé, là. Vous voyez ou pas ce que c'est ou pas? C'est des internautes qui incitent.
Barbenheimer, j'en ai parlé il y a deux semaines, oui.
Donc les internautes, ils incitent à aller voir Barbie, puis ensuite le film
Oppenheimer.
À la suite.
Par contre,
oui, c'est sur la bombe atomique. Hein. Ouais, voilà.
Justement, c'est très antinomique, les deux.
Deux visions du monde opposées.
C'est
et
deux bombes différentes. Allez, l'émission va se terminer de toute façon. Et puis Robin Iken, lui. Hein.
On en a parlé il y a 15 jours, donc en même temps.
Ah bah oui, voilà. Allez, c'est déjà la fin de l'émission. Donc, voilà, on va se retrouver dans 15 jours. C'est la fin de Mon Tiroir, l'émission qui vous donne le pouvoir. Merci aux chroniqueurs de soir. Merci Robin.
Merci.
Merci Caro.
Merci.
Merci Joe.
Merci.
Merci Sandra.
Merci.
Merci Florian.
Merci.
Et merci notre invité. Tu en veux ton prénom?
Et sa chemise.
Martin, merci.
Et sa chemise en lin.
Et puis merci à Olivier qui nous écoutait aussi.
Merci à Olivier, à Yann Générique.
Ouais.
Et à G-Dog.
Aussi. Bah, très bien. Bah, tous ceux qui nous écoutaient sur le chat et qui ont voté pendant toute cette émission. On se retrouve dans 15 jours, même heure et même endroit, en direct. Vous pourrez à nouveau prendre le pouvoir et participer au vote interactif. Donc, il est temps de refermer nos tiroirs. Mais n'oubliez pas, avec DMT, vous avez le pouvoir. Bonne soirée.
C'est vraiment très intéressant.
My mind expands throughout the universe. A female rapper with a message to send. The Queen Latifah is a perfect specimen.
My sister, can I get some?
Sure, Moni Love, grab the mic and get dumb.
Yo, praise me not for being simply what I am. Born in L-O-N-D-O and sound American. You dig exactly where I'm coming from. You want righteous rhyming, I'ma give you some. To enable you to age yourself and get paid. And the material that has no meaning, I wish to slay. Pay me every bit of your attention. Like mother, like daughter, I would also like to mention. I wish for you to bring me through the rhythm. Of which is now systematically given. Desperately stressing, I'm the daughter of a sister. Who's the mother of a brother, who's the brother of another. Plus one more, all four. Have a job to do, we do, and in respect due to the mother who's the root of it. And next up is me, the M-O-N-I-E-L-O-V-E. And I'm first, cause I'm a L-A-D-I-E.
Contact and in fact, the style it gets harder. Cooling on the scene with my European partner. Laying down track after track, waiting for the climax. When I get there, that's when I tax the next man or the next woman. It doesn't make a difference, keep the competition.
nation coming, and I recite chapter in verse. The title of this recital is Ladies First.